Les Imbonerakure, donc ces ligues de la jeunesse du parti au pouvoir, sont des groupes généralement assez organisés de jeunes personnes qui, malheureusement, depuis le début de la crise, sont impliquées dans de très nombreuses violations des droits de l'homme. Ils agissent dans de nombreux cas quasiment comme des suppléants des forces de police burundaises. Ils sont souvent armés. Parfois, il y a des accusations selon lesquelles ils portent même des uniformes de policiers. Et ce qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant, c'est que de plus en plus, en toute impunité, ils tuent, ils brutalisent, ils torturent, réclament des taxes imaginaires à la population. Et donc, le rapport que Human Rights Watch vient de publier demande aux autorités burundaises de finalement enfin enquêter sur ces violations et de s'assurer que les responsables de ces violations soient traduits en justice.
Ce sont des groupes qui sont présents dans tout le pays ou davantage dans la capitale Bujumbura?
Non, ce sont des groupes qui sont présents dans l'ensemble du territoire burundais.
Selon HRW, donc les agents de police et de renseignement ont recours à ces personnes pour arrêter des opposants, comme vous nous le disiez, et ce depuis au moins 2009. C'est donc des violences qui durent depuis plus de 8 ans?
Oui, les violences ne sont pas nouvelles, mais depuis le début de la crise électorale l'année dernière, la situation a pris un tour pour le pire. Il y a eu une grande augmentation de ces violences, et même au cours des derniers mois, on voit une recrudescence de ces attaques par les Imbonerakure, qui agissent en toute impunité et qui n'ont jamais à payer le prix de leur crime. Même dans les rares cas sur lesquels nous avons enquêté, quand la police est avertie et intervient, il n'y a aucune trace de réelles conséquences pour les Imbonerakure.
Quelle est la nature des abus commis? Est-ce qu'ils prennent des ordres, possiblement des services de renseignement, ou bien ils agissent parfois seuls de leur propre initiative?
Nous ne sommes pas dans le secret de ces discussions entre le parti au pouvoir, les forces de l'ordre et les Imbonerakure. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une très grande proximité entre eux, pas seulement idéologique. Et je dirais que l'interprétation la plus généreuse pour le gouvernement serait de dire que les Imbonerakure jouissent d'une totale impunité et qu'ils ne sont jamais inquiétés pour les crimes qu'ils commettent. Maintenant, de là à savoir s'ils sont aux ordres du parti au pouvoir et des forces de l'ordre, c'est certainement une question très sérieuse. Ce n'est pas du tout une question fantaisiste. Et je crois qu'il reviendrait à la commission d'enquête internationale qui a été dépêchée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou même à la Cour pénale internationale qui observe la situation au Burundi, de le déterminer le moment venu.
Oui, alors justement, pour reparler de cette commission d'enquête donc, qui avait été lancée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il y avait aussi eu un déploiement de plus de 200 agents de police non armés qui avait été proposé par l'ONU. Quelle est la marge de manœuvre des Nations Unies?
Écoutez, elle est assez réduite. Effectivement, le Conseil de sécurité avait autorisé le déploiement de 228 policiers non armés au Burundi pour travailler main dans la main avec les observateurs des droits de l'homme de l'ONU. Mais les autorités burundaises ont refusé ces déploiements. Ils font tout ce qu'elles peuvent pour mettre des bâtons dans les roues de l'ONU et en particulier les observateurs des droits de l'homme. Et donc, c'est aussi ce manque de coopération que le Conseil de sécurité doit examiner aujourd'hui. Les autorités burundaises, les responsables gouvernementaux n'ont pas vraiment payé de prix pour avoir défié cette résolution du Conseil de sécurité. C'est pourquoi nous appelons maintenant le Conseil de sécurité à placer sous sanction individuelle les responsables burundais qui sont impliqués dans des violences graves. La mécanique pour ça est assez simple. Le Conseil de sécurité peut créer un panel d'experts qui pourra enquêter sur les responsabilités individuelles de responsables burundais dans tous les camps d'ailleurs. Ça n'exclut pas du tout que des responsables de l'opposition qui ont aussi recours à des violences puissent tomber sous le coup de cette liste. Et une fois que cette liste sera constituée, bien le Conseil de sécurité a l'autorité d'interdire à ces personnes de voyager à l'étranger et de geler leurs comptes en banque s'ils en ont dans des pays voisins ou à l'étranger.
Comment on peut expliquer que l'ONU ne l'ait pas fait jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est par lenteur de la machine onusienne ou c'est pour d'autres raisons?
Le Conseil de sécurité parfois veut donner du temps à la diplomatie. Les membres du Conseil de sécurité ne sont toujours pas tous unanimes sur la meilleure façon de procéder. Certains pays sont réticents par rapport à des sanctions. C'est souvent le cas de la Russie et de la Chine, par exemple. Mais la réalité, c'est que ça fait maintenant plusieurs mois que le gouvernement burundais défie les décisions du Conseil de sécurité, et la crédibilité même du Conseil de sécurité est maintenant en jeu, et donc il revient au Conseil de sécurité de réexaminer la situation et d'envoyer un message très ferme aux responsables burundais que ceux d'entre eux qui sont impliqués dans des violations graves des droits de l'homme, eh bien, au moins ne pourront pas voyager à l'étranger ou avoir des comptes en banque à l'étranger en attendant que justice soit rendue.